Une messe de dimanche commence par ce qu'on appelle l'asperges. Cette asperges a été supprimée dans les messes ordinaires, mais pourrait être maintenue. Il n'est plus obligatoire. Et je crois qu'au temps pascal, par contre, c'est demandé. Et on pourrait le chanter en grégorien, l'asperges, mais en règle générale, en France, on chante « J'ai vu l'eau vive ». Mais au temps pascal, pardon, c'est moi qui me trompe, au temps pascal, que ce soit dans le rite grégorien ou dans le rite, comment dire, ordinaire, actuel, c'est « vidi aquam ». J'ai vu l'eau sortir du côté droit du temple. Hein, c'est le Christ crucifié et l'eau et le sang qui sort du côté droit. Je vous ai expliqué que la lance doit passer sous les côtes pour arriver au cœur. Si le soldat avait attaqué par la gauche, les côtes protégeaient le cœur. Mais sous les côtes du côté droit, on peut atteindre le cœur en diagonale. Voyez ? Et sur le Saint-Suaire, la blessure, le sang a coulé sur le côté droit. Et voyez-vous que la vision d'Ézéchiel, je crois, de cette eau qui sort du temple, c'est cela. Vidi aquam pour le temps pascal, ou asperges me, c'est un rite pénitentiel. Nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Vous m'aspergerez, Seigneur, de l'hyssope. C'est une branche qui retient l'eau. C'est une plante qui retient bien l'eau. Et donc, on peut en asperger plus facilement. Je crois même que au désert, l'hyssope était plongé aussi dans le sang pour asperger le peuple. Hein. Comment?
Dans le sang des agneaux.
Oui. Oui, tout à fait. Vous m'aspergerez, Seigneur, de l'hyssope et je serai purifié. Vous me laverez et je serai plus blanc que la neige. Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde. Donc là, on demande, on va vers le sacrifice qui nous a sauvés. On demande pardon pour nos péchés. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et donnez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière et que mon appel monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions, exaucez-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et daignez envoyer du ciel votre Saint-Ange, pour qu'il garde, favorise, protège, visite et défend tous ceux qui habitent dans cette demeure, l'Église, le lieu où on célèbre la messe, par le Christ notre Seigneur. Et là, le prêtre va dire un psaume de pénitence, et en même temps qui signifie le sacrifice auquel il va s'unir. Ce psaume, donc une prière du roi David, celui-ci est vraiment attribué à David. Il y a des prêtres du temple, Salomon aussi, on attribue certains psaumes à Salomon. Au roi David, il a environ au moins 60-70 psaumes sur 150 qui viennent du roi David, authentiquement. Et d'autres étaient des prières composé par les prêtres de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Eh bien, ici, ce psaume est du roi David, ou peut-être sacerdotal, parce que justement, c'est un prêtre qui va aller vers l'autel du Seigneur pour offrir des sacrifices d'animaux. Et là, pendant que le prêtre dit ce psaume, le dimanche, il y a les chants de l'entrée de la messe, ce qu'on appelle l'introïte, avec des morceaux de psaumes, des phrases pour la fête du jour, hein. Les anges se réjouissent pour la Vierge Marie qui est montée aux cieux, c'est ce qu'on appelle l'introïte et c'est chanté. Alors si vous écoutez pieusement les chants grégoriens, eh bien vous n'allez pas dire avec le prêtre ce psaume. C'est pour ça que les personnes qui vont à la messe le dimanche, comme il se doit, mais qui ne vont pas à la messe en semaine parce qu'il n'y a pas d'obligation, hein, eh bien, connaîtront peu ce psaume. Il faut savoir qu'avant le 19e siècle, les gens n'avaient pas de missel. Donc les gens venaient pour prier avec Jésus qui s'offre sur l'autel. Et ils ne connaissaient pas tous ces détails. Donc juste au 19e siècle, vous savez, personne ne connaissait, peu de personnes le connaissaient. Des personnes qui avaient voulu trouver, qui connaissaient la liturgie, qui connaissaient cette montée vers dans la pénitence, des personnes pieuses qui assistaient à la messe en semaine, finissaient par connaître ce psaume, et s'ils ne comprenaient pas le latin, ils comprenaient que c'était le prêtre qui, comment dire, se prépare à monter vers l'autel, à aller vers l'autel du sacrifice. Voyez, le temple de Jérusalem, vous aviez le parvis des gentils, des non-juifs, c'est-à-dire l'extérieur du temple. Vous aviez le parvis des femmes, parce que ça rigolait pas, hein, pour la pureté, hein, il faut que les femmes soient séparées des hommes, parce qu'on ne doit pas les regarder, on ne doit pas se regarder, on doit être voilé. Vous voyez, ça c'est l'Orient, hein. Et j'ose pas vous dire que saint Paul demande aux dames d'être voilées. Sinon, vous allez me lyncher. Parce que si les chrétiens s'apercevaient que saint Paul demande aux femmes d'être voilées, on rigolerait un peu moins du voile islamique, vous voyez. Mais il faut savoir que jusqu'au XXe siècle, les femmes n'avaient jamais la tête découverte. Les hommes non plus, d'ailleurs, hein, en général. Mais dans l'église, dans le lieu de culte, les hommes se découvrent, les femmes peuvent rester couvertes, parce que c'est un signe de modestie de ne pas montrer ses beaux cheveux, flotter au vent. Voilà. Et saint Paul de dire que les femmes ont naturellement un voile avec leurs cheveux, donc voyez-vous, même naturellement, elles ont un voile. Et que les hommes, eux, n'ont pas à avoir les cheveux longs. Je me disperse et je reviens ici donc à ce psaume qu'on va lire. Je monterai à l'autel de Dieu, vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse. Et là, le prêtre entrait dans le saint, où il offrait du parfum. Il entrait dans le saint des saints une fois par an, avec le sang de l'agneau pour asperger l'arche d'alliance, le grand prêtre. Sinon, les prêtres, devant le saint et le saint des saints, il y avait l'autel des sacrifices. Et donc, il montait vers cet autel, il tuait l'animal pour pas avoir à faire de sacrifice humain et à tuer les pécheurs. L'animal mourait à la place du pécheur. On le faisait brûler intégralement, ou c'était un sacrifice d'action de grâce, on le faisait cuire, on donnait une partie aux prêtres pour qu'ils en vivent, et une partie à ceux qui étaient venus. Et on mangeait ensuite, dans la joie, l'agneau, ou la vache, n'est-ce pas, le bœuf, voyez. Donc les prêtres prenaient, un jambon, une partie, les autres prenaient une autre partie, enfin, c'est... Les prêtres de Jérusalem étaient des bouchers, mais des bouchers très fins, très, très religieux, mais ils savaient découper la viande, parce que c'était pour Dieu, mais c'était aussi, Dieu leur disait, c'est comme ça que vous allez vous nourrir. Hein. Donc ils étaient très très pointilleux sur ces choses-là. Et l'autel où on avait mis la cuve de bronze avec les cendres, enfin avec les rondins sur lesquels on brûlait les victimes, en permanence, avec la graisse des animaux qui... La sauce, n'est-ce pas qui sortait, tout ça. Enfin, c'était impressionnant. Eh bien, voyez-vous, à cet endroit-là, actuellement, sur le rocher où il y avait l'autel, il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Et Mahomet a dit qu'il avait posé les pieds qu'il avait fait un voyage nocturne de la Mecque ou de Médine jusqu'à Jérusalem, qu'il avait qui s'était posé parce que Pégase, un cheval ailé l'avait emmené jusque-là. Là, il a parlé avec tous les prophètes, et Jésus y compris, n'est-ce pas, puisque ce n'est qu'un prophète et qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas mort sur la croix, puisqu'il y a un ange qui a été substitué. Saint Michel a fait semblant que Jésus meurt sur la croix, mais Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça, c'est l'enseignement islamique. Hein. Donc, dans le dialogue interreligieux, il faut arriver à poindre quand même ces problèmes-là. Parce que justement, en islam, on est pardonné par Dieu dans sa bonté. Mais il n'y a pas de victime expiatoire. Ils font le sacrifice du mouton en l'honneur du sacrifice d'Isaac. Mais d'abord, ils disent, c'est les Juifs qui ont dit que c'était Isaac. En fait, c'est Ismaël qui est monté sur la montagne de Sion. C'était pas Isaac, c'était Ismaël. Donc c'est la confusion historique. Ils ont quand même un sacrifice de rédemption qui est signifié par Isaac, Ismaël pour eux. Et c'est Jésus qui va finir par mourir véritablement. Donc ils ont quand même une idée qu'un homme, Isaac pour les Juifs, Ismaël par erreur pour les musulmans, meurt pour le peuple, pour accomplir la justice divine. Quand Jésus vient à Saint Jean-Baptiste et qu'il lui demande de le tuer, comme Abraham aurait dû tuer Isaac pour rendre à Dieu le culte d'adoration du maître de la vie et de la mort, eh bien, le baptême, c'est de noyer quelqu'un et de le purifier et de le faire revivre par la miséricorde de Dieu. Le baptême d'eau pharisaïque et de Saint Jean-Baptiste, c'est un signe aussi de mort et de renaissance. Et Saint Paul le dit bien. C'est l'homme nouveau qui doit renaître de l'eau. C'est le peuple juif qui traverse l'eau et qui devrait mourir noyé comme l'humanité est morte noyée lors du déluge. Donc l'eau signifie mourir. Sortir de l'eau signifie revivre. Vous voyez ? Et donc, ici, l'autel des holocaustes, c'est la mort des victimes. Donc vous pouvez vous imaginer que si les sionistes et les juifs religieux rasent la mosquée d'Al-Aqsa, sur laquelle Mahomet est censé avoir posé les pieds et être parti dans un voyage au ciel pour aller parler avec tous les prophètes, vous voyez, ça va très très mal se passer. Mais ils doivent mettre à nouveau l'autel du sacrifice à cet endroit-là. Mais est-ce qu'ils vont à nouveau offrir des bœufs, des moutons? Ça, c'est moins sûr. Hein. À mon avis, ça sera plutôt symbolique comme autel. Vous voyez, même les musulmans ont le sacrifice d'Abraham. Et le mouton qui est sacrifié, ce n'est pas le sacrifice pascal, mais c'est plutôt le sacrifice d'Abraham. Vous voyez. Et donc, lorsque Mahomet refuse de donner à Jésus d'accomplir le signe du sacrifice d'Abraham, ce n'est pas bon. Il manque l'accomplissement de la prophétie du signe du sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël dans la religion musulmane. Ils le commémorent, mais ils disent « Ah, mais de toute façon, c'était un bouc qui est mort à la place. Point !» Ah bon? Vous croyez vraiment que Dieu s'est donné la peine de mettre à l'épreuve ce pauvre Abraham pour simplement mettre un bouc? Non. À un moment donné, il est allé jusqu'au bout. Et le Père a offert son Fils. Voilà. Et c'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la croix, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a fait avant pour le monde entier. Le sacrifice d'Abraham, c'est la messe. Le sacrifice de l'agneau pascal, c'est la messe. Et vous allez le voir. Et donc le prêtre va vers ce sacrifice. Je monterai à l'autel de Dieu, vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse. Quand on a 85 ans, c'est toujours très drôle de le dire. Mais c'est vrai. La jeunesse spirituelle, c'est extraordinaire. Rendez-moi justice, ô Dieu. Distinguez ma cause de celle d'une nation infidèle. Alors là, voyez-vous, autant on va demander à ne pas être, à être purifié de nos péchés, mais aussi à ne pas être éprouvé au-dessus de nos forces par ceux qui nous tirent vers le péché. La mauvaise influence des fausses religions ou des pécheurs. Rendez-moi justice, ô Dieu, et distinguez ma cause de celle d'une nation infidèle. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Puisque vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi me repoussez-vous? Et pourquoi avançais-je tristement, tandis que l'ennemi m'opprime? Envoyez votre lumière et votre vérité. Elles m'ont guidé et m'ont amené vers votre sainte montagne, Sion, et vers vos tabernacles, le Saint des Saints, l'Arche d'Alliance. Je vous louerai sur la harpe, ô mon Dieu. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme? Et pourquoi me mets-tu dans le trouble? Espère en Dieu, parce que je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez. Donc à la fois, on est angoissé parce qu'on est une pauvre petite créature. Il y a des gens qui nous poussent au péché. On résiste à ce péché. Et on est trop triste. Ouin, ouin. Là, vous voyez. Imaginez que je prenne une harpe au début de la messe et je vous donne 3-4 accords. Gling, 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 gling. Voilà. C'est les mouvements de l'âme. Voyez. Si vous lisez les 150 psaumes, vous avez tous les mouvements de l'âme humaine. De la joie, la peine, le repentir, l'innocence, la culpabilité, mais aussi l'innocence. Oui. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu... Alors là, on dit le confiteor. C'est quoi le confiteor? Là, c'est par contre une prière qui n'est pas de l'Ancien Testament. C'est une prière de l'Église. Elle est où? Ils le mettent pas, c'est pas bien. Donc ils ne daignent pas le mettre à cet endroit-là. Il doit être peut-être avant la communion. Voilà. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ça, c'est le confiteor abrégé. Sinon, le confiteor plus ancien, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Vierge Marie toujours Vierge, à Saint-Michel Archange, aux saints apôtres Pierre et Paul, à Saint-Jean-Baptiste, et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai péché en pensée, en parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. C'est passé dans le langage populaire, hein, mea culpa. Et donc, ce confiteor, c'est au tout début. Alors, si vous allez à la messe le dimanche, comme le confiteor est dit dans le cœur et par le prêtre, vous, si vous êtes porté par les chants, ben vous connaissez peu le confiteor. Mais pour vous rattraper, puisque je confesse mes péchés, ici, vous n'entendez même pas la prière du prêtre qui prie pour le pardon de vos péchés. Hein, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me demandent de rétablir le confiteor avant la communion. Seulement, je ne sais pas. Il y a des personnes qui sont bien recueillies et le fait de dire le confiteor peut-être les sortirait de leur recueillement avant de communier. Enfin bon, pour l'instant, j'ai pas, je vous ai déjà rétabli la chair, le machin, tout ça. Enfin, on ne peut pas... Sinon, on va partir au XVIIe siècle et ça va. Et là, ce sont des morceaux de psaumes. Hein. Page 46. Ô Dieu, tournez vers nous, vous nous ferez vivre, et votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, et donnez-nous votre salut. Seigneur, soyez attentif à ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et là, le prêtre monte à l'autel. Et dans un autel, c'est à la fois la table du repas pascal et le tombeau du Christ d'où il ressuscite. Et c'est pour ça que les autels étaient à la fois une table et un tombeau. Alors, suivant votre spiritualité, c'est plutôt le tombeau, ou suivant votre spiritualité, c'est plutôt la table. Mais quand il y a eu des centaines et des milliers de martyrs, mais c'était plutôt le tombeau. Et on célébrait la messe, à un moment donné, on a célébré la messe sur le tombeau des martyrs, ou près des tombeaux des martyrs. Et du coup, on mettait quelques ossements du martyr dans l'autel. Parce que ces ossements avaient appartenu à celui qui, dont l'âme est dans la vision béatifique. Les reliques, en latin, reliqua, c'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste d'un corps? Les os en général. Eh bien, ces os ont été vivifiés par une âme qui est en train de voir Dieu et de vivre en Dieu, parce qu'il est mort martyr. Et puis ces os, à la fin des temps, vont rentrer dans la constitution du nouveau corps ressuscité. C'est pas seulement, vous savez, c'est pour ça qu'on vous déconseille l'incinération, parce qu'on doit pas, on doit respecter le corps. Même si ensuite il est dissous par l'humidité du cimetière au bout de 1000 ans, en ce moment, si la fin des temps est dans 5 ans, le bon Dieu aura pas grand chose à faire, hein. Les os seront bien... Vous voyez, au point de vue des sels minéraux et des atomes de calcium, il n'ira pas chercher dans la terre du cimetière. Ils seront bien là. Voilà. Petite plaisanterie au passage. Mais c'est vrai, ce que je vous dis quand même. C'est-à-dire que l'Apocalypse dit « La mer rendra les corps ». C'est-à-dire que Dieu va prendre tous les restes mais dissous dans l'eau, qui ont appartenu à un corps humain, pour en reconstituer le corps de ces personnes-là, dans la vallée de Josaphat. Et Ézéchiel voit des tourbillons de poussière venir dans la vallée de Josaphat, les squelettes se reformer à perte de vue, la chair, la peau, et il voit tous ces corps, et les âmes qui reviennent dans les corps. Et là, Dieu proclame le jugement dernier et donne à toutes les âmes la connaissance de toute l'histoire, privée ou publique. Sans aucune honte, pour tous ceux qui auront péché et qui auront regretté leur péché. Et pour la confusion de ceux qui auront péché, jamais trop regretté, jamais regretté, mais dont... l'injustice sera manifestée pour que vous avez des gens qui ont la foi de manière un peu dure. Je veux que la justice soit rétablie. Il n'est pas possible que des injustices, des meurtres, des calomnies ne soient jamais connues. Mais, quitte à ce que l'assassin ou le calomniateur est regretté et soit aux côtés de celui qui l'a tué ou de celui qui l'a calomnié. Mais parce que dans la vie éternelle, c'est le pardon, puisque la personne a sincèrement et vraiment regretté. Il n'y a que Dieu qui peut savoir au moment de notre mort ou avant que nous perdions connaissance si nous avons regretté nos fautes. Et des gens qui ont été mauvais, méchants toute une partie de leur vie, vous n'avez même pas le droit de souhaiter leur damnation, car ça serait le sang de Jésus qui tombe à terre. Et vous n'avez pas le droit même de penser qu'ils se sont damnés, parce que vous devez souhaiter qu'ils se soient sauvés, pour la dignité du sang de Jésus. Et croyez bien que Dieu vous persuadera qu'ils ont eu un regret sincère s'ils se sont sauvés. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas dit le Confiteor, eh bien, vous avez le Kyrie. Le prêtre, lui, continue à prier. « Seigneur, ôtez de nous, nous vous en prions, nos iniquités, afin que nous méritions d'entrer dans le Saint des Saints, voyez, avec des cœurs purifiés. » C'est la prière des prêtres de Jérusalem. D'avoir supprimé cette prière, c'est pas terrible. Parce qu'à mon avis, elle a 3000 ans, cette prière. Hein. Bon, je dis ça comme ça. Nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, dont les reliques sont ici, que vous daignez pardonner tous mes péchés. Alors, quand vous avez une table, un morceau de verre, un morceau de métal, hein, donc moi, là, le soir, je vais dans la paroisse où je dois célébrer la messe, et avec une perceuse, hop, et je mets quelques reliques, toc, et je referme, et voilà. C'est dommage, vous voyez. Normalement, dans l'autel, il y avait des reliques. C'est devenu facultatif à partir des années 70. Et là, tout le monde, normalement, demande pardon à Dieu. Kyrie eleison. Kyrie, en grec, ça veut dire le Seigneur, l'empereur. Kyrie eleison, ça veut dire aie pitié de nous. Christ eleison, au Christ ayez pitié de nous. Kyrie eleison, tout-puissant ayez pitié de nous. Le premier tout-puissant, c'est le Père. Le deuxième, c'est le Fils. Le troisième, c'est le Saint-Esprit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, trois fois, en l'honneur de la Sainte Trinité, mais pour le Père. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, trois fois, pour le Fils. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, trois fois, pour le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas quel tordu a diminué à deux.
À Notre-Dame
Non, mais pour... je crois que c'est pour la France. Dans d'autres pays, je crois qu'il y a les trois. Enfin, vraiment. Voilà. C'est parce qu'en fait, ils voulaient que ça soit le prêtre qui le dise et le peuple qui réponde. Donc, un, deux. Mais c'est trois pour la Sainte Trinité. Trois, trois, trois. Et alors, chez les orientaux, orthodoxes ou catholiques, c'est... Kyrie eleison, 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 15 fois. Donc ça, voilà. Et si 15 fois, c'est, je crois que c'est pour les petites messes. Hein. Ça peut, c'est une litanie. Et alors, il y avait ensuite des litanies. On priait les saints. Et là, le Gloria. Gloria, c'est une prière de gloire. En même temps d'action de grâce, en même temps de demande de pardon, c'est une prière complète. Moi, je vous conseille de connaître le Gloria en français, en latin si vous voulez. C'est une prière très très belle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est la traduction littérale. Mais c'est vrai que c'est aux hommes qu'il aime. Mais bon. Nous vous louons, nous vous bénissons. Nous vous adorons, nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, alors là, on a dit que les deux premières personnes de la Sainte Trinité, et on développe pour le Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, et ça c'est le sacrifice du peuple juif qui quitte l'Égypte. C'est Saint Jean-Baptiste qui dit « Le sacrifice que nous célébrons à Jérusalem depuis notre sortie d'Égypte, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu. » Ce titre de l'agneau de Dieu, c'est vraiment la réconciliation de tous les peuples dans la foi. Et il n'y a plus ni juifs ni païens, il y a les chrétiens qui sont et juifs et païens qui reconnaissent l'incarnation et la divinité du Christ. Agneau de Dieu, Fils du Père, vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié du monde. Alors, en latin, c'est qui portez les péchés du monde. C'est plus fort. Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. Misère nobis, c'est parce qu'on est pécheurs, hein. Car vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Là, on mentionne l'Esprit-Saint, qui procède du Père et du Fils, dans la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, c'est la Sainte Trinité, mais ça, je vous ai déjà fait la leçon sur la Sainte Trinité, donc je ne peux pas refaire à chaque fois. Ici, il y a la prière du jour. pour l'Assomption, pour tel dimanche. Et on prie le Père. La messe est adressée à Dieu Père, à Dieu Créateur, à Dieu aimant, à Dieu qui donne la vie. Et la vie qu'il donne, c'est son Fils. Et on prie le Père. Et nous, parce que son Fils, sa parole éternelle, s'est fait homme, nous sommes du coup les frères et sœurs de Jésus. Donc, parler à Dieu, c'est parler d'abord au Père. Mais il est bien évident qu'en tant qu'homme, on aime bien parler au Fils, à la parole, parce que c'est notre roi. Il a notre humanité. Mais sachez, la complexité de la vraie religion, c'est d'admettre que Dieu est Père, Fils et amour substantiel du Père et du Fils. Imaginez que mon amour pour mon Père s'assied à ma gauche, mon amour pour ma mère s'assied à ma droite. Qu'il soit substantiel. Et bonjour, monsieur l'abbé. C'est qui? Ah, c'est mon amour pour mon Père. Ah, bonjour, monsieur l'amour du... Ici, c'est amour pour ma mère. Ah, voilà. Eh bien, figurez-vous qu'en Dieu, on peut parler à l'amour consubstantiel du Père et du Fils. Dieu se pense de toute éternité en un seul acte, c'est son Fils. C'est sa pensée. Dieu s'aime parce qu'il se contemple dans sa pensée, il se dit éternellement, c'est l'Esprit Saint. Dans la gloire de Dieu le Père, eh bien là, on va parler au Père pendant toute la messe et à Jésus avant de communier. La messe est adressée au Père. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et c'est pour ça que la prière est à... Parfois, la prière de la messe, qu'on appelle la collecte, on rassemble nos intentions, c'est adressé à Jésus. À ce moment-là, on change la fin. Mais 90% des prières sont adressées au Père, et on dit, par Jésus, par l'intercession, par l'intermédiaire de Jésus. Par Jésus, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Là, on fait une lecture de la parole de Dieu, de ce qu'il nous a enseigné, de la révélation. C'est ce qu'on appelle l'épître. Ensuite, vous avez des prières des psaumes, le graduel, l'alléluia, qui sont des prières tirées de la parole de Dieu. Et là, pendant ce temps-là, le prêtre, lui, va dire la parole de Dieu la plus belle, c'est-à-dire Dieu qui est venu, la vie de Jésus. Et là, il a la même peur qu'Isaïe. Il se dit, si je suis un trop grand pécheur et que je dis l'amour de Dieu comme ça, sa venue. Hein. Isaïe a dit, vous m'envoyez pour être prophète, mais c'est affreux, c'est terrible, est-ce que je suis assez saint pour ça? Alors, vous avez Saint Michel, sans doute, hein. Il prend une braise, il arrive et il dit, t'as pas les lèvres assez pures? Tiens, voilà, ça va mieux, tu te sens mieux, voilà. Et bien, vous voyez, cette purification par le feu. Et bien là, le prêtre, là, il est là, il fait, j'espère que celui qui porte l'encensoir ne va pas prendre au mot ce que je vais dire, et qu'il ne l'entend pas, et qu'il ne comprend pas le latin, hein, parce qu'il y a des charbons dans l'encensoir, et on met de l'encens. Tous, touris, encens, turiféraire, celui qui porte l'encensoir, l'encens. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, vous qui avez purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Et là, il y a un coup d'œil sur le turiféraire. Oui. Daignez ainsi, par votre bienveillante miséricorde, me purifier afin que je sois capable d'annoncer dignement votre saint évangile. Seigneur, daignez me bénir, que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres, afin que j'annonce dignement et convenablement son évangile. Suite du Saint-Évangile. Et là, nous avons l'évangile. Après l'évangile, le prêtre prend le livre, le missel, et dit « que nos péchés soient effacés par ces paroles tirées de l'Évangile. C'est pas une bonne traduction, hein. Que nos péchés soient effacés pour avoir dit cet Évangile, pour avoir prononcé cet Évangile. Ensuite, vous avez le credo. Mais là, je passe. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai développé jusqu'à présent, la Sainte Trinité, hein, née du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, nous l'avons vu lorsque nous avons vu le Christ. La mort de notre Seigneur, nous le verrons une deuxième fois avec le temps pascal, mais mardi dans 15 jours, nous ferons le sacrement de confession. Ensuite, l'offertoire. Après le credo, vous êtes là. Sachez que tout ce qui s'est passé là, c'est se préparer à la messe. Alors, c'est la table de la parole pour certains modernes, et ils sont fous de rage quand on leur dit « c'est pas la messe ». C'est une prière d'adoration, une prière de confession de la foi, confession des péchés, une demande de miséricorde, de méditation de la parole de Dieu, de le « je crois en Dieu », mais c'est pas encore la messe, c'est pas encore la prière de Jésus au Père. Alors, du coup, eh bien, si vous arrivez au credo, mais vous n'avez pas manqué la messe. Mais j'ai manqué le début, l'épître, l'évangile, et je suis mal à l'aise. Si vous avez le temps, et s'il y a une messe après, vous pouvez rester pour assister jusqu'au credo. Mais si vous n'avez pas le temps, et qu'il n'y a pas de faute de votre part, c'est une négligence de manquer tout le début de la messe. En soi, de l'offertoire à la communion du prêtre, c'est la messe. Et d'ailleurs, dans l'ancien temps, les gens le savaient bien, et ils regardaient pour voir si le voile avait été retiré du calice. Vous dites, est-ce que j'ai eu la messe ou est-ce que j'ai pas eu la messe? Bon, c'était pas un peu pharisaïque, peut-être pas, mais d'un autre côté, ceux qui étaient pieux et qui avaient cette coutume, parce que c'était la coutume générale d'en faire le moins possible, mais eux voulaient quand même assister à la messe et se recueillaient pour la messe, ils étaient attentifs à venir avant le credo ou pour le credo. Mais de nos jours, vous avez des prêtres qui vous refuseraient l'absolution de systématiquement arriver en retard et de manquer la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile à la messe du dimanche. Quoi? Mais c'est très important tout ça. Manger du pain après, c'est moins grave. Hein? Et là, vous vous levez, dites, mon père, vous n'avez pas la foi, ça me dérange un peu de me confesser auprès de vous. L'offertoire. Et vous idolâtrez la parole de Dieu. Moi, j'aime bien une parole vivante. Jésus. C'est bien la Bible. Mais Jésus, c'est mieux. Benoît XVI a bien dit, nous ne sommes pas une religion du livre. Ah non? La Bible nous explique, mais nous sommes une religion de l'incarnation. C'est bien la Bible, mais moi je préfère, qu'elle m'amène à Jésus. Mais c'est Jésus le cœur des choses. Et là, cette prière de l'offertoire, dans la messe réformée, a été réduite à une prière d'action de grâce, en quelque sorte. Je la connais, mais bon. Je sais plus. Fruit de la terre et du travail des hommes. Eh bien, écoutez ce que je dis en offertoire long à toutes les messes, en français, en latin, en serbo-croate, en slavon. Recevez, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, cette hostie sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous offre à vous qui êtes mon Dieu vivant et vrai, pour mes innombrables péchés, offenses, et négligence, pour tous les assistants, mais également pour tous les fidèles à la foi chrétienne, vivants et morts, afin qu'elle nous profite à eux et à moi, en vue de notre salut pour la vie éternelle.